Pour ceux qui n'étaient pas des nôtres, hier soir, nous avons parlé de l'Évangile. Et nous avons dit qu'en tant que chrétiens, il importe que nous soyons des flambeaux de l'Évangile. Ce matin, nous avons parlé de la saveur de l'Évangile. Ce soir, plutôt cet après-midi, nous parlerons d'investir pour l'Évangile, pour l'avancement de l'Évangile. Et dans ce sens, nous lisons un texte au livre des Rois, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Nous lisons donc ces textes en 2 Rois 4. Un jour, Élisée passait par Sunem. Je demande aux amis s'occupant de la technique et de l'éclairage de bien vouloir m'accorder de voir vos visages rayonnants. Merci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Merci à présent de me donner un peu de lumière pour que je puisse continuer la lecture. » Est-ce qu'on m'entend? Ça vient, merci beaucoup. Et c'est d'autant que je suis myope. Merci. Élisée, donc, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Nous lisons un autre texte au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, à partir du verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et puis un troisième texte que je citerai de mémoire, en Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Avec la Sunamite et son mari, nous sommes en présence d'un couple qui a la foi. Mais un couple qui ne s'est pas contenté d'avoir la foi. Un couple qui traduisait sa foi de manière concrète et de façon vivante, discernant les besoins d'un homme de Dieu, en l'occurrence Élisée. Dans un premier temps, ils le reçurent à leur table, manifestant ainsi leur foi dans l'Éternel. Jacques nous enseigne ce qui suit. En Jacques 2:17, en Jacques 2:26, la foi sans les œuvres est morte. Et puis encore en Jacques 2:20, la foi sans les œuvres est inutile. Alors une question pour commencer. Nous avons la foi. Si je posais la question de savoir combien êtes-vous ici à posséder la foi, je suis persuadé que toutes les mains se lèveraient. Nous avons tous la foi. Cette foi qui nous a sauvés. Cette foi en Christ qui se nourrit de la parole de Dieu, qui grandit chaque jour. Cette foi qui fixe Christ. Nous avons tous la foi, mais une autre question. Y a-t-il des œuvres qui s'attachent à notre foi, et quelles sont ces œuvres? Parce que nous avons tellement mis l'emphase sur le salut par la seule foi, comme disent nos théologiens, par la sola fide, n'est-ce pas, que nous en oublions très souvent les œuvres qui doivent s'attacher à notre foi. Or, une fois sauvés, il y a des œuvres dans lesquelles il importe que nous entrions pour glorifier notre Dieu. Selon Éphésiens 2:10, pas n'importe quelles œuvres, mais des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Il y a des œuvres que Dieu vous a préparées, afin que vous entriez dans ces œuvres et pour que vous les réalisiez dans la force qu'il donne. Êtes-vous précisément, vous situez-vous dans ces œuvres préparées d'avance? Y a-t-il des œuvres s'attachant à votre foi? Mais il est tellement important de poser la question, parce que pour moi qui cours le monde, comme vous le savez, j'ai déjà pratiquement fait le tour de la terre depuis le 1er janvier, à commencer bien sûr par mon pays, la France, et au passage, je suis très heureux de saluer parmi nous un Français, ainsi que son épouse, les Bonicelles. Il y a peut-être d'autres Français. Levez la main pour voir, les Français. Oh, je ne le croyais pas. Je ne le pensais pas que nous étions aussi nombreux au Québec. Pour ce qui me concerne, je le suis très provisoirement. Je reviendrai au Québec, Dieu voulant, fin août, avec mon épouse cette fois. Pour un mois et 12 campagnes à tenir, au passage, pensez-y, un peu partout dans la province. Mais c'est en France, évidemment, que je passe le plus clair de mon temps, sur à peu près 30-35 campagnes par année, 4 campagnes par mois en général. C'est la France que je visite une vingtaine de fois pour des campagnes, puis la Suisse, la Belgique, l'Afrique, les Antilles, etc. Le Québec, comme vous le savez. Alors, très souvent, je suis en présence justement de chrétiens en Christ, simplement qu'il n'y a pas d'œuvre traduisant leur foi. C'est peut-être votre cas, et parce que précisément vous n'êtes pas entré dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, vous êtes en crise. Et ceci est tout à fait normal que vous connaissiez ce genre de crise. Alors quand nous n'entrons pas dans les œuvres, dans ces œuvres préparées d'avance, la plupart du temps, ces œuvres que nous ne faisons pas, d'autres essaient de les accomplir à notre place, et ceci les charge davantage. Qu'est-ce que je constate très souvent? Je passe d'une dénomination à l'autre, étant évangéliste interdénominationnel, et j'ai contact avec les pasteurs de toutes sortes de dénominations, et qu'est-ce que je constate? La plupart du temps, ils sont, ces pasteurs, plus que chargés. Ils croulent, littéralement, sous le travail qu'ils doivent accomplir, alors qu'il y a tant et plus de choses, nous le disions au cours du cours au CT, aux étudiants, il y a tant de choses que d'autres pourraient faire pour nous afin de nous décharger, afin que nous nous consacrions, serviteurs de Dieu, à l'essentiel de notre ministère. Quand je pense qu'un pasteur m'a dit, par exemple, je suis obligé de mettre de l'ordre dans la salle de réunion avant les réunions de la semaine ou du dimanche matin, alors j'en ai les bras tout à fait en bas. Il y a tant et plus d'œuvres que nous pouvons accomplir pour glorifier le Seigneur. Y a-t-il des œuvres qui s'attachent à notre foi? Alors il ne s'agit pas simplement d'œuvres, par exemple, comme celles que je viens d'évoquer, mais d'autres œuvres. Si nous pouvions faire une liste dans nos églises, et je l'ai suggéré aux étudiants où c'était, une liste de tous les services possibles dans une église, en tout cas pour ce qui me concerne, alors que je fonde des nations, j'avais fait ce genre de choses. Et j'avais trouvé plusieurs dizaines de services possibles, voulant ainsi partager ma responsabilité avec d'autres, et pour travailler en équipe. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de chômage dans l'église. Vous trouvez pas ? Alors le dimanche matin, pour ceux qui très souvent n'apparaissent que le dimanche, il faut dire aussi que pour beaucoup, il n'est pas possible de venir à l'église en dehors du dimanche, si peut se comprendre. Il y a des empêchements qui peuvent être majeurs, mais si l'on regardait de près, je considère ceux qui peut-être viennent le dimanche au culte, et ils viennent simplement, comme on dit en France, pointer qu'ils sont toujours là, pointer qu'ils n'ont pas abandonné l'église. Mais au cours de la semaine, ils nous donnent l'impression d'avoir déjà été enlevés. Hein ? Où sont-ils passés ? Alors qu'il y a tant et plus à faire, oh, dans nos communautés, dans nos églises. Que se passe-t-il généralement dans nos églises, couramment ? Brièvement dit, eh bien, un noyau autour du pasteur porte l'ensemble des fardeaux, des responsabilités, des services. Un noyau. Autour de ce noyau gravite un certain nombre de chrétiens, que personnellement j'ai coutume d'appeler les chrétiens satellites. Ils tournent autour, n'est-ce pas ? Sans pouvoir s'intégrer au noyau. Et quand ça tourne trop vite, quand le noyau tourne trop vite, alors ces chrétiens satellites disparaissent petit à petit, là tout autour, ils disparaissent. Je ne sais pas où, mais qu'il est dommage d'être chrétien satellite. Quand nous pourrions être chrétiens engagés dans l'œuvre du Seigneur, venant partager avec les autres toutes ses responsabilités au niveau de tâches très humbles, qui chargent nos responsables, nos pasteurs, nos anciens, nos diacres. Oh, je veux bien croire que nous allons saisir cet après-midi que nous avons certainement un service précis à accomplir dans notre Église pour la gloire de Dieu. Et puis ensuite, ce couple, que nous enseigne-t-il après s'être orienté vers l'hospitalité, vers cet accueil, ce ministère d'accueil du prophète Élisée? Ils avaient décidé ensemble d'aller plus loin, d'investir davantage pour l'œuvre de Dieu. Il importe que nous apprenions à investir toujours plus dans l'œuvre du Seigneur et pour l'Évangile. Ils décidèrent d'investir davantage. Alors ils décidèrent de construire une chambre haute, d'y mettre un lit, une table, un siège, un chandelier pour le prophète, afin qu'il puisse s'y retirer toutes les fois où il passait à Sunem, vous savez ce que c'est un camp de la Ligue pour la lecture de la Bible. En France, dans le midi de la France. De sorte qu'ils travaillaient de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Admettons que nous ayons un service dans notre Église. Est-ce que nous avons pensé à investir davantage, à nous investir nous-mêmes davantage dans ce service, pour ne pas que ce service devienne une sorte de routine, au point d'en être peut-être lassé? Essayons de voir comment investir et nous investir nous-mêmes davantage au plan de notre temps, de nos moyens, de notre force, de nos biens. L'apôtre Paul écrivit aux Corinthiens ce qui suit, 1 Corinthiens 15, 58, « Travaillez de mieux en mieux. » Est-ce notre cas ? À l'œuvre du Seigneur. Il n'a pas écrit ces choses à des pasteurs, des anciens, des responsables. Non, il a écrit ça à l'église de Corinthe, à des fidèles, à des disciples, à des chrétiens, à des membres de cette église. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Investissez-vous davantage dans cette œuvre et faites ce travail de tout votre cœur. Voilà pourquoi j'ai cru devoir vous lire ces textes d'Actes 6, parce que ces textes d'Actes 6 nous font part de la première crise que l'Église de Jérusalem connut après avoir pris un départ foudroyant, celui que vous savez. Crise dans l'Église de Jérusalem. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Pourquoi ? Parce que leurs veuves étaient négligées aux tables. À la salle à manger de cette église, je ne sais pas qui devait servir là, lorsqu'une veuve des Hébreux passait, de louche, pour que nous comprenions un peu la situation, ceci n'est pas écrit. Quand une veuve des hellénistes passait, une louche, alors on faisait des distinctions à cette salle à manger de la première église. Et ceci avait conduit cette église à une crise très sérieuse qui divisait l'élément helléniste, grec donc, de l'élément hébreu. Alors pour régler ce problème, on était allé voir les apôtres. Voilà ce qui se passe. Et les apôtres, qui étaient des hommes spirituels, avaient discerné là, à l'origine de cette crise, un problème spirituel. À l'origine de nos crises, de quelque nature qu'elles soient, et je dis même en tant qu'évangéliste, à l'origine de toutes nos crises dans le monde, il y a toujours un problème spirituel. Alors ces apôtres, ayant vu ce problème spirituel, avaient pris cette précaution, ils étaient des hommes sages, de ne pas prendre parti ni pour les uns ni pour les autres, en face de cette crise. Attitude plutôt très sage. Puis ensuite, de dire ce qui suit, eh bien, si vous voulez que cette crise se règle, choisissez parmi vous des hommes, pas n'importe lesquels, des hommes desquels on rend un bon témoignage, déjà, remplis du Saint-Esprit, rempli de sagesse, c'est écrit cela, rempli de foi, pourquoi ? Pour tenir une louche en main. Est-ce que j'invente quelque chose ? Pour tenir un instrument de cuisine en main, voilà de quoi vous encourager, mesdames, dans vos cuisines. Pour travailler dans vos cuisines et servir le Seigneur de cette manière-là, il vous faut être rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli de foi, rendant un bon témoignage, en tout cas jusqu'aux tâches les plus humbles de l'Église. Il faut être, comme nous l'avons vu, rempli de foi, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse pour servir aux tables. Vous n'en croyez pas vos oreilles, vous venez de l'entendre, reprenez ces textes. Oh, j'aimerais vous raconter ce qu'il m'est arrivé à Nation. Alors que je fondais l'Église et que l'œuvre se déployait de façon rapide et considérable au point de dépasser tout ce que nous pouvions espérer, moi aussi j'ai dû aligner les chaises en rang d'oignons avant les réunions. J'ai dû aussi faire le ménage, très souvent dans notre salle de réunion à Paris Nation sur le cours de Vincennes. J'ai dû faire tant et plus de choses, et puis un jour, n'en pouvant plus, parce que très chargé, j'avais demandé des volontaires pour l'entretien de nos locaux de culte. Avec ces mots, vous trouverez à la sortie une feuille de papier sur laquelle vous pourriez inscrire votre nom, et nous essaierons avec ces noms d'établir un tour de rôle. Aucun nom. Aucun nom. Ça nous arrive, hein? Alors, la feuille étant restée vierge, j'en avais éprouvé un certain dépit. Et puis, en réfléchissant à toutes ces questions matérielles de notre Église, ce texte d'Acte 6 m'était venu à l'esprit. Alors, le dimanche suivant, j'avais prêché sur Acte 6. Et la nomination des diacres, et j'ai dit très gentiment à mon Église, personne n'a osé mettre son nom, le mien y est toujours et tout seul. Alors, il me semble que, à la lumière des textes d'Acte 6, il me semble simplement que nous avons manifestement fait la preuve que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, que nous ne sommes pas remplis de foi, que nous ne rendons pas un bon témoignage et que nous manquons de sagesse. Parce que dans l'Église primitive, pour tenir un balai en main, pour faire le ménage, tenir une louche en main, servir aux tables, il fallait être rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli de foi, rendre un bon témoignage. Alors ceci prouve manifestement que nous n'en sommes pas là, et tant pis pour nous. Mais mes amis, après le culte, plus de place sur cette feuille blanche, les noms débordés de partout. Tout à coup, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Ah, parce que nous pensons très souvent que, précisément pour servir le Seigneur, il nous faut témoigner, prêcher, enseigner. Non. Le Seigneur voudrait que nous commencions à le servir dans de petits services très humbles qui lui sont agréables. Et s'il nous trouve fidèles dans ce genre de service, alors il nous en confiera d'autres. C'est comme ça que le Seigneur procède. Et puis cette tsunamite a été convoquée par Élisée, qui a voulu comme la récompenser. Tu as montré à notre égard tant d'empressement que nous voudrions faire quelque chose pour toi. Faut-il que nous parlions au chef de l'armée, au roi? As-tu besoin que nous intervenions au plus haut niveau pour toi? Et cette tsunamite de lui répondre, mais non, mais pas du tout. Dans cette parole, j'habite au milieu de mon peuple, je n'ai besoin de rien. Et si j'ai fait cela, Élisée, pour toi, c'est en fait pour Dieu que je l'ai fait. Et je ne veux rien recevoir en retour. Oh, mais quelle foi, hein ? Je dirais que c'est là la qualité d'une foi qui est d'un grand prix, d'un grand parfum devant Dieu, le désintéressement de la foi. Elle a voulu œuvrer pour Dieu sans rien espérer en retour. Quelle leçon de la part de cette femme. Parce que très souvent, tout chrétien que nous soyons, bien, c'est toujours donnant-donnant. Hein, que c'est vrai. Et très souvent aussi, nous pensons que notre foi nous a été donnée pour que nous nous servions de Dieu à des fins personnelles, à nos fins, comme il nous plaît. Mais la foi ne nous a jamais été donnée pour que nous nous servions de Dieu comme il nous plaît. La foi nous a été donnée pour que nous servions Dieu. Non pas pour que nous nous servions de lui, mais pour que nous le servions. Elle nous a été donnée pour que nous accomplissions sa volonté. Cette foi nous a été donnée pour que nous puissions donner gloire à Dieu. Est-ce que notre foi donne gloire à Dieu? Est-ce que notre foi nous a donné d'investir et de nous investir Pour Dieu, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et l'apôtre d'ajouter encore ce qui suit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. En effet, la Bible dit en Hébreux 6, 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La récompense, Dieu la donnera en son temps. Et Dieu n'oubliera pas de nous récompenser, parce que Dieu récompense. Seulement, n'ayons pas la récompense pour point de mire, mais servons Christ le Seigneur, lui donnant gloire, pour que son œuvre avance et pour que sa gloire éclate, non seulement au Québec, mais encore ailleurs. Servez Christ le Seigneur, investissez vous entièrement dans son œuvre afin que l'Évangile avance dans votre pays et pour qu'il avance aussi dans le mien. Alors y a-t-il des œuvres qui s'attachent à notre foi? Est-ce qu'à partir de maintenant, nous n'allons pas réfléchir aux œuvres qui devraient être les nôtres devant Dieu pour que nous puissions les accomplir dans la force qu'il donne, dans l'obéissance et dans un parfait désintéressement, dans une foi de qualité qui lui est d'une agréable odeur. Que Dieu soit béni pour sa parole et l'exemple de cette tsunamite. Dieu voulant, je vous retrouve une dernière fois ce soir et que Dieu vous bénisse. Amen.